le planificateur financier de Rage Against le matin, Marc-Antoine Reed. Bon mardi.
Bon mardi à vous trois.
Oh ben?
Ben oui, très bien.
En forme?
Oui, il fait beau. Fait
tabarouette, hein, faut-tu en profiter?
On dirait pas que l'hiver s'en vient.
Maintenant, on va le manger, chiclette. Ouais. Mais pour tout de suite, on va en profiter pendant que ça passe. Tu veux qu'on parle d'assurance-vie, puis surtout peut-être les mythes qui entourent
l'assurance-vie? Ben oui, essayer de briser ça un petit peu. C'est pas le sujet nécessairement le plus populaire de la planification financière, là, parce que c'est relié à un événement auquel on n'aime pas trop penser, hein, la mort, en fait, là, c'est qu'un jour, c'est une
nous
des fauchera.
Sorties
dans la vie qui nous fauchera, exact, c'est ça. Puis c'est un des volets importants de la planification financière. Malheureusement, notre domaine est encore quand même pas mal fragmenté, là. Donc, on évite d'aller voir le fameux conseiller en assurance, qui a son rôle puis qui a son expertise. Mm-hmm. Souvent parce qu'il va nous parler juste d'assurance. Des fois, on va se retrouver aussi, puis il ne faut pas généraliser, là, mais avec certaines erreurs, des coûts qui sont élevés ou par rapport à d'autres volets de la planification financière, comme l'accumulation d'actifs aussi, puis l'épargne. Mais je pense qu'il faut le voir de façon cartésienne pour surtout avoir cette réflexion-là puis réfléchir. Puis si par la suite, un coup que la réflexion est consciente, la personne a dit « ben moi, je trippe un peu moins là-dessus puis je vais vivre avec le fait d'être moins assuré ou pas couvrir certains risques », bien, au moins, ça sera une décision réfléchie et non pas, on n'aura pas joué à l'autruche là-dessus. Parler des mythes, c'est un bon angle, justement, pour éviter de jouer à l'autruche et de se mettre la tête dans le sable. Ça fait que je commence, si vous voulez, par le. Avant, est-ce qu'il y en a qui vous viennent à l'esprit, peut-être des mythes qui vous viendraient à l'esprit
pour l'assurance vie?
Hey, mythe!
Que ça sert à rien parce que, de toute façon, t'es mort.
Hein? Ouais, c'est un bon mythe, ça.
Parce que effectivement, ça sert énormément.
Ben c'est ça, pas à toi, mais
non,
à tes proches.
C'est ça, exact. Non. Moi, je dis souvent, parce que je le pense, puis ça amène à réflexion aussi, l'assurance vie, c'est un geste de générosité.
Mm. Ouais.
Puis ça résume un peu ce que tu viens de dire. Hein? Sinon, c'est sûr qu'on peut dire ben, on n'a pas besoin, je ne serais plus là. Mais la vie fait qu'il y a des gens qu'on apprécie autour de nous et des gens qui dépendent de nous, qui ont contribué là, à leur sécurité financière. Ça fait que ça, c'est un angle important.
Je pense que j'en ai un. Je pense.
Ouais. Moi aussi, je pense que j'en ai un. Je vais y aller après.
Que tu vas dire ah non, pas besoin de ça, moi, assurance vie ou m'informer, j'ai ça avec ma job. Mais tu le sais pas
nécessairement. Ouais, c'est bon, ça.
Ah,
c'est
bon.
Ben, ouais, c'était mon deuxième mythe, excellent. Okay. Jeff, c'est celui-là que tu allais dire?
Non, moi, j'allais dire. Ah, ben, je vais payer ben trop dans ma vie par rapport à ce que ça va me donner. Fait que je suis aussi bien de dépenser mon argent avec mes proches.
C'est vrai, c'est un angle, mais ça serait d'aller plus au cinéma versus plus être capable de rester dans la maison après ton
c'est
décès.
C'est ça, exactement.
Fait que là, quand on pondère les autres, effectivement, mais ça pourrait être une réflexion qu'on pourrait avoir. C'est l'angle que je prendrais pour la réponse. Fait que je commence avec mon deuxième mythe, vu que tu l'as nommé, Reg. L'assurance vie au travail est suffisante.
Ouais.
Bon, comment ça se calcule? T'sais, souvent, là, bon, c'est les gens qui ont des packages collectifs, si on veut, ou des avantages sociaux, ils ont une à deux fois leur salaire. Comment ça se calcule, le besoin d'assurance vie? Bon, souvent, c'est si on a une maison avec un conjoint, une conjointe, on souhaiterait souvent que la personne, si on n'était plus là, puisse au moins garder le confort de ce qu'on a acheté ensemble. Fait que souvent, il va y avoir le montant des dettes, là, la plus grosse étant l'hypothèque. Puis la deuxième qui fait gonfler ça beaucoup, c'est si vous avez des enfants. Bien là, vous êtes responsable d'amener les enfants jusqu'à leur autonomie financière. Fait que de remplacer une portion de vos revenus, mettons 60% de vos revenus, jusqu'à temps que le plus jeune ait 25 ans, ça fait beaucoup d'argent quand on calcule comme ça. Fait qu'imaginez une à deux fois le salaire, pensez-vous que c'est suffisant pour remplir toutes ces choses-là? Si vous n'avez pas d'enfants, c'est peut-être moins, mais ça fait certainement pas pour la plupart des gens le solde des dettes ou de l'hypothèque. Fait que c'est définitivement pas assez. Puis la dernière chose que j'ajouterais là-dessus, c'est que si vous quittez votre emploi, vous n'en avez plus d'assurance. Là. Puis c'est quand même fréquent dans une vie. On va changer d'emploi en moyenne quelques fois. Puis peut-être qu'à ce moment-là, la santé va être moins bonne puis on ne sera pas éligible pour avoir sa propre assurance-vie. Fait que ça, c'était le deuxième mythe. Le premier, c'est l'assurance-vie, ça coûte cher. Bien, je vous dirais, ça dépend. Puis règle générale, c'est pas cher. Parce que la plupart des besoins d'assurance sont temporaires. Je viens d'en parler de deux. Couvrir l'hypothèque. Techniquement, un jour, on n'en aura plus d'hypothèque.
Ouais.
Les enfants, ils grandissent, puis à un moment donné, ils deviennent autonomes. Ça fait que c'est un autre besoin qui est temporaire. Puis de l'assurance temporaire, bien, ça coûte pas cher parce que la plus forte probabilité, c'est bien plate. Puis ça veut pas dire que ça la prend pas, mais c'est que vous la payez pour rien.
Ouais.
Mettons, vous prenez une assurance temporaire à 10 ans, peu de chance, Jeff, que tu décèdes dans les 10 prochaines années.
En effet, parce que je le souhaite.
Le prix va être aligné à ça. Ça fait que, tu sais, pour un homme, je me souviens pas de ton âge exact, mais à titre d'exemple, 500 000, c'est quand même beaucoup, 500 000.
Ben oui.
pour un homme de 45 ans, on parle de 42 et 35 par mois. Par mois. J'ai pas magasiné le meilleur tarif. Là. J'ai juste révisé matin le logiciel, que je sais que les prix sont bons.
Fait que ça veut dire à peu près 500$ par année.
C'est ça, exact. Puis pour une femme de 33 ans, 500 000, on parle de 16,85.
Et Colin, pas cher.
Moi, je l'ai pris à 21 ans. Puis là, quand ils m'ont demandé ce que je mangeais dans une semaine, puis consommation d'alcool, puis tout, moi, ça me coûte cher.
Là, ils t'ont dit que t'es pas assurable.
Mais ça reste dit. Mais ça tu dis que tu faisais du vélo à tous les matins puis tous les soirs, ça c'est bon.
Je fais plus de vélo, je marche.
Ah ouais, okay, c'est mieux. Bon aussi.
Ouais, c'est bon.
Excellent, ça.
Mais ouais.
Fait que ça, c'était mes deux premiers mythes. La troisième qui est fréquent, c'est je rencontre beaucoup de gens qui ont juste l'assurance hypothécaire ou qui prennent l'assurance hypothécaire. Bon, je dis souvent c'est mieux que pas d'en avoir, mais c'est quand même la pire à détenir. C'est la pire à détenir pourquoi? Elle est plus chère. Le capital qui est assuré va être dégressif. Tandis que les besoins ne sont pas nécessairement en descendant.
C'est vrai.
Parce que l'hypothèque descend. Après ça, le bénéficiaire, c'est la banque qui vous l'a vendu. Tandis que, mettons que Reg, tu as une hypothèque avec ta conjointe, probablement préférable que ce soit ta conjointe qui reçoive l'argent puis qui décide si elle doit, avec cet argent-là, rembourser l'hypothèque ou pas. Ça, c'est un autre problème. Pas beaucoup de questions quand on la prend. Et à l'occasion, on creuse quand il y a une réclamation, tandis qu'une vraie police d'assurance, on pose beaucoup de questions au début, puis un coup qui est approuvé, à part si on a menti, est approuvé. Donc, pour toutes ces raisons-là, l'assurance hypothécaire, là, puis le coût aussi, est certainement pas la meilleure à détenir. Mm-hmm. Ça fait que ça peut se canceller n'importe quand. Fait que quelqu'un qui a juste ça, je recommande faire la démarche à côté. Un coup qu'on a la bonne police, le bon montant, au meilleur prix d'approuver, bien là, à ce moment-là, on cancelle notre assurance hypothécaire.
Parce que le coût-bénéfice de l'assurance vie est plus intéressant que l'assurance hypothécaire. D'un, tu vas pouvoir avoir un plus gros montant que l'assurance vie.
Avec le même montant.
Puis de deux,
il va rester stable.
Il va rester stable, puis tu vas pouvoir mettre dans les mains, exemple, de ta conjointe, si tu décèdes, le pouvoir d'achat.
Exact, c'est ça. Puis c'est pas nécessairement toujours la meilleure décision financière de
te lairer à maison.
L'hypothèque, tu sais, en gros.
Parfait.
Puis mettons que c'est juste ça, la te lairer, puis que la conjointe était serrée, puis il n'y a pas d'autres sous, t'as pas d'argent quand même pour opérer, puis t'as reviré de côté quand même.
Ouais, je comprends.
Fait que dans le fond, la façon de faire, c'est on calcule le besoin, on regarde ce qu'on a déjà. Si c'est bon, ben, tu sais, on en rajoute si on a plus de besoins que ça sur notre contrat distinct. Puis on refuse, un coup qu'on a ça, toutes les autres offres d'assurance qui sont reliées à marge de crédit, hypothèque, puis tout ça.
Tu as un peu répondu à la question, mais je ne sais pas si c'est trop précis et tu aurais besoin de plus d'informations, mais je vais t'a poser parce que quelqu'un l'a texté.
Ben
c'est simple, la personne dit, si je suis maman au foyer, sur quoi me baser pour faire un calcul de ce que j'ai de besoin?
Ben pour l'assurance vie, ça serait la même chose. C'est-à-dire, mettons, si cette maman-là est au foyer, est avec un conjoint qui lui travaille, ben si elle décède, il y a quand même un besoin. Là, les enfants, il va falloir qu'il y ait quelqu'un d'autre qui s'en occupe si elle a des enfants.
Maman au foyer, fait que oui. Fait que eux ou des enfants.
Indirectement, elle contribue là, au ménage. C'est fait vrai. Que si elle n'est pas là pour contribuer, il y a un manque financier, là, même si...
Puis au ménage, tu veux dire
point,
la maison, là?
Vu que je travaille...
Par ménage, ça, tu voulais dire
non,
la maison.
Je sais pas,
juste pour que ça soit clair. Là,
exact, non, mais elle contribue au ménage
familial
et à la sécurité financière du ménage. C'est ça que je voulais montrer.
Oui, moi, je t'avais compris. Mais je voulais juste qu'on soit clair. Là, pas,
Puis c'est ça. Ça fait que oui, donc elle a quand même besoin d'assurance, assurément. Le besoin serait moins grand, par exemple, que si c'est son conjoint qui ramène les revenus à la maison puis tout ça pour elle que pour son conjoint. Moins de choses à remplacer en termes d'apport de revenus, mais quand même un apport, puis il y a de l'assurance vie aussi. Les deux derniers, on a besoin d'assurance que si on a de jeunes enfants, mais indirectement en expliquant les autres, je l'ai pas mal expliqué. Là. Il peut avoir remboursé les dettes, pouvoir que le conjoint garde la maison. Il y a aussi, là, tu sais, pour les gens qui sont célibataires, ça, c'est peut-être le plus facile à dire, bien, ils s'arrangeront, mais il y a quand même les frais funéraires. C'est sûr que si on a des sous pour les payer, ben ça, des placements, ça pourra se payer à même ça, mais c'est quand même un besoin qui est là dès le début. Un petit peu plus loin dans la vie, on peut vouloir couvrir l'impôt au décès. Ça arrive beaucoup dans ma clientèle. Au fur et à mesure qu'on construit son patrimoine, ben, il y a de l'impôt sur différentes choses, particulièrement dépendamment à qui on le laisse. Mais tu vois une situation souvent, quelqu'un qui a une maison puis un chalet, il va avoir de l'impôt sur une des deux propriétés. S'il veut que les enfants gardent le chalet familial, ben là, ça peut être une bonne idée de couvrir l'impôt au décès. autre situation que je vois souvent, puis ça, je suis toujours surpris, la surprise des gens qui n'avaient pas pensé à cet angle-là. Tu as un nouveau conjoint dans ta vie ou une nouvelle conjointe, ça fait 20 ans que tu es avec lui, mais c'est pas le père puis la mère de tes enfants. Ça change beaucoup les discussions de planification financière. T'sais, souvent, les gens à qui je parle dans cette situation-là vont vouloir aider le conjoint s'il y avait quelque chose, mais les enfants sont plus hauts dans l'ordre là, d'héritage, puis il y a des pièges dans lesquels ne pas tomber. Puis le conjoint est toujours favorisé en termes de successoral. Fait que souvent, ce qu'on va faire après un certain temps, quand la personne est importante, on va favoriser le conjoint pour où est-ce que c'est intéressant fiscalement, les réhab, les choses comme ça. Puis on peut remplacer ce qui est laissé au nouveau conjoint par une police d'assurance vie avec les enfants comme bénéficiaire. Dernier mythe, puis quelques points pour conclure. Ça ne sert à rien de prendre une assurance vie si on est jeune. T'sais, si on est jeune, on n'a pas d'enfant, des fois on n'a pas d'hypothèque, puis tout ça. Ben, c'est pas tout à fait vrai. C'est une réflexion à avoir aussi. Ça peut être contestable, tout ça, mais quand tu es jeune, ta santé est bonne. Fait que techniquement, ça passe facilement à l'assurance. Ouais. Tu gèles un tarif qui est plus faible, mais moi, surtout, le bénéfice que j'y vois, c'est que tu gèles une assurabilité. Ça fait que, mettons que tu prends, tu as 22 ans, puis tu prends une assurance vie temporaire 10 ans. Ça va coûter rien ou presque. Et par la suite, ça te permet de convertir ça en un produit d'assurance, une assurance vie entière, tu sais, qui va durer toute ta vie, sans poser de questions de santé. Ça fait que là, si par la suite, tu apprends que tu fais du cholestérol ou des choses qui augmenteraient ta tarification ou qui pourraient même amener un refus, ça ne t'affecte pas parce que tu peux prendre ta même police puis la transformer avant qu'elle soit échéance. Ouais. Quelques points pour conclure. Si vous êtes propriétaire d'entreprise ou si vous êtes plus fortuné, bien là, dans plusieurs cas, l'assurance, c'est plus une dépense. Tu sais, parce que les situations que je décris, c'est une dépense. Ça peut devenir un placement. Il faut quand même regarder de façon cartésienne la rentabilité du placement, mais souvent, particulièrement les propriétaires d'entreprises, là, il y a une belle rentabilité en termes de placement successoral parce qu'il y a des concepts qui utilisent la fiscalité. Puis deuxième point, s'il y a des choses à retenir, des mythes que j'ai mentionnés aujourd'hui, c'est d'avoir une réflexion puis une discussion là-dessus. Puis les questions que moi que j'engendre pour amener cette réflexion-là, mettons, je suis devant un couple, je dis, vous êtes-vous imaginé, sans rester trop longtemps dans ce scénario-là, comment ça se passerait si, par exemple, il y en a un des deux qui sort de la maison pour faire un accident de voiture puis il ferme les yeux? Juste de savoir, d'avoir cette réflexion-là, comment ça se passerait financièrement, bien là, ça va amener la réflexion puis la décision consciente, puis probablement, fort probablement, de dire, ben écoute, il faudrait revoir nos protections. Puis, ça doit faire partie d'un plan global. Encore une fois, c'est important. Moi, je me sens valorisé de bien l'expliquer, bien le vulgariser au client. Mais ce n'était pas ma passion première qui m'a amené dans l'industrie. Puis aujourd'hui, ce que j'aime, c'est que je le fais de façon cartésienne. Puis je le fais en fonction de si on est surprotégé, ça peut être correct. Mais il faut être conscient que c'est au détriment peut-être de la vitesse à laquelle on bâtit son indépendance financière. C'est que de le faire avec quelqu'un qui a un regard global, assurément, il y a un gain parce qu'on ne se retrouvera pas, si on a besoin d'une version économique, on se retrouvera pas avec la Cadillac des produits d'assurance parce qu'une Cadillac coûte plus cher. Je pense que c'est un vieux terme, on pourrait dire de BMW. Là,
bon, oui.
Cadillac en ont peut-être perdu un petit peu qu'à l'époque.
Mais on comprend très bien le jeu de mots.
Oui, c'est ça. Fait que ça fait le tour d'un petit peu pour l'assurance. Fait que mettez-vous pas la tête dans le sable, ayez cette réflexion-là. Puis surtout, aller chercher du bon conseil là-dessus.
Pas nécessairement la discussion la plus sexy à avoir, mais la discussion très importante quand même à avoir si on veut contacter toi et ton équipe.
Facile à rejoindre, un numéro sans frais qui illustre bien ce qu'on fait avec nos clients, c'est-à-dire des plans financiers ou de la planification financière. Donc, 1-833 ton plan. Sinon, vous pouvez nous googler, équipe Marc-Antoine Rey d'REID. Vous allez tomber sur notre site Internet où est-ce que vous pouvez prendre contact avec nous pour avoir un peu d'informations. Ou tout simplement réécouter la chronique et les dernières semaines aussi sur votre site Internet qui est très bien fait.
BLVD.fm. Profite du beau temps.
Ben oui, vous
aussi. On se reparle mardi prochain.
Absolument, c'est un rendez-vous.
Bonne semaine. Bye.